Vous écoutez On lit pour vous.
Le retour estival des grands requins blancs dans le Saint-Laurent. Un texte d'Alexandre Shields, paru le 8 juillet 2026 dans Le Devoir. À l'instar de plusieurs espèces qui reviennent année après année dans les eaux du Saint-Laurent, le grand requin blanc est lui aussi de retour. Notamment avec la présence d'un individu pesant plus de 700 livres au large des îles de la Madeleine. Cette espèce en voie de disparition se nourrit notamment de phoques qui, eux, sont très abondants. Cette jeune femelle, surnommée Bella, a été repéré au nord de l'archipel le 4 juillet 2026 grâce à une balise qui permet de suivre ses déplacements par l'entremise du site OSEARCH depuis le mois de juillet 2025. Avec ses 3 mètres, au moment d'installer la balise, il s'agit d'un individu de petite taille par rapport à d'autres individus qui nagent ces jours-ci au large de la Nouvelle-Écosse. On y trouve notamment une femelle de plus de 4 mètres et pesant au moins 1400 livres et un mâle de plus de 1000 livres et d'une longueur de près de 4 mètres. On constate par ailleurs que Bella illustre bien les migrations très importantes que l'espèce peut effectuer tout au long de l'année. Depuis le mois de mars 2026, elle a nagé dans les eaux du golfe du Mexique puis au large de Floride, avant de remonter vers le golfe du Saint-Laurent en passant par la région de New York et les côtes de la Nouvelle-Écosse. Grâce au partage de données entre scientifiques et à la présence de récepteurs acoustiques dans différentes parties du golfe du Saint-Laurent, des requins sont repérés chaque année dans les eaux québécoises. Selon les données du gouvernement fédéral, les observations ont lieu en majorité entre juin et septembre, et principalement au mois d'août. Si les eaux du Saint-Laurent ont toujours fait partie du vaste habitat de cette espèce en Atlantique, les informations récoltées année après année semblent indiquer une augmentation de leur présence, donc possiblement de la population. Des requins et des phoques. La présence de phoques gris, une proie de prédilection pour l'espèce, pourrait expliquer en partie le phénomène. À titre d'exemple, en 2021, 19 d'entre eux ont été repérés dans le secteur de l'île Brion, situé au nord-est des îles de la Madeleine, sur environ 200 récepteurs actifs à l'époque. En 2022, 42 ont aussi été repérés à proximité des colonies de phoques gris de l'archipel. Pêche et Océan Canada, MPO, étudie d'ailleurs l'espèce dans le golfe du Saint-Laurent, notamment en installant des balises sur des individus. En 2025, un total de 28 requins blancs ont ainsi été munis d'une balise. Ces travaux devraient permettre aux scientifiques d'en apprendre davantage sur le grand requin blanc et ses habitats de prédilection dans les eaux canadiennes, des données par ailleurs essentielles pour tenter de mieux comprendre l'état de la population. Il faut savoir que le grand requin blanc de l'Atlantique est inscrit comme étant en voie de disparition en vertu de la loi sur les espèces en péril après avoir subi un déclin provoqué par la mortalité accidentelle causée par les pêches commerciales, mais aussi en raison de son caractère de trophée pour certains pêcheurs sportifs. Le gouvernement fédéral a donc l'obligation légale de le protéger. Comme l'espèce peut mettre jusqu'à 30 ans avant d'atteindre sa maturité sexuelle et donc sa capacité à se reproduire, un éventuel rétablissement prendrait plusieurs décennies. Selon l'Observatoire des requins du Saint-Laurent, le nombre d'observations dans les eaux de l'Est du Canada pourrait refléter une hausse de la population, donc un rétablissement progressif. Victime de la caricature qu'en a faite le cinéma et des mythes entretenus par les médias, le grand requin blanc pâtit depuis des décennies d'une réputation peu enviable. Ce grand prédateur est pourtant un élément crucial de la biodiversité des écosystèmes marins, répètent les experts de l'espèce. C'était le retour estival des grands requins blancs dans le Saint-Laurent, un texte d'Alexandre Shields, paru le 8 juillet 2026 dans Le Devoir.
Bouger mieux après 50 ans grâce à la kinésiologie. Un texte de Jacqueline Simoneau paru le 10 juin 2026 dans Bel Âge. Douleurs persistantes, perte de mobilité, baisse d'énergie. Après 50 ans, le corps change, mais il n'est jamais trop tard pour bouger mieux. Grâce à des exercices adaptés et à un accompagnement personnalisé, le kinésiologue peut aider à préserver la forme physique, prévenir les blessures et améliorer la qualité de vie au quotidien. Le gouvernement provincial a récemment mandaté l'Office des professions du Québec pour mener les travaux visant l'intégration des kinésiologues au système professionnel. Nous en discutons avec Marc-Antoine Pépin, président de la Fédération des kinésiologues du Québec. Quel est le rôle du kinésiologue? Le kinésiologue est un professionnel de la santé, expert du mouvement, qui utilise l'activité physique à des fins de prévention, de réadaptation ou de performance. Il conçoit des plans d'intervention sécuritaires et adaptés aux besoins et aux réalités des clients. Le kinésiologue travaille autant avec des personnes souffrant de maux chroniques ou se relevant d'un AVC qu'avec des gens désirant un encadrement pour une remise en forme. Il conseille et épaule les clients dans l'adoption de comportements bénéfiques. En quoi le travail du kinésiologue diffère-t-il de celui du physiothérapeute ou de l'ergothérapeute? Le physiothérapeute s'applique principalement à soulager et à traiter différents problèmes de santé physique comme une blessure. L'ergothérapeute met en place des programmes axés sur l'adaptation à l'environnement afin d'améliorer la qualité de vie et l'autonomie des gens. Le kinésiologue, lui, soutient une approche globale et durable de la santé. Il est un acteur important dans la prévention. Sa mission consiste, entre autres, à maintenir ou à améliorer la condition physique des individus pour leur permettre de vieillir en forme et en santé. Dans quelle mesure la kinésiologie est-elle bénéfique aux personnes de 50 ans et plus? Dans un contexte où les enjeux d'accès aux soins et de vieillissement de la population sont grandissants, les aînés ont tout avantage à se garder en forme. Or, avec l'âge, particulièrement après la retraite, il y a souvent un déconditionnement physique, d'où la pertinence d'adopter un programme d'exercice adapté pour éloigner les maladies liées à l'âge. Troubles cardiovasculaires, arthrose, etc. Réduire les chutes, améliorer la mobilité et conserver son autonomie le plus longtemps possible. L'activité physique apporte aussi de nombreux bienfaits au plan cognitif. De plus, une récente étude a révélé que les personnes âgées ayant suivi un programme d'exercice développé par des kinésiologues ont reçu leur congé d'hospitalisation 6 jours plus tôt que les autres. Bref, ce professionnel peut travailler tous ces aspects et plus encore. Qu'est-ce que la création d'un ordre va changer pour le public? À l'heure actuelle, tout le monde peut porter le titre de kinésiologue sans avoir à se soumettre à de la formation continue ou à adhérer à un code d'éthique. La mission principale d'un ordre professionnel est donc de protéger le public en réglementant la pratique pour assurer la compétence et l'intégrité des membres, la qualité des soins et les formations requises. Des syndics sont également nommés afin de recevoir les signalements du public et de faire enquête. Cette reconnaissance ouvre la voie à une meilleure intégration des kinésiologues au sein du réseau de la santé, ce qui permettra d'optimiser les soins aux patients. C'était « Bouger mieux après 50 ans grâce à la kinésiologie », un texte de Jacqueline Simoneau paru le 10 juin 2026 dans Bel Âge.
Il faudrait manger davantage de petits poissons. Un texte de Mégane Tanguay, paru le 4 juillet 2026, dans Coup de pouce. Lorsqu'il est question de poissons, ce sont souvent le saumon, le thon ou l'espadon qui attirent l'attention. Pourtant, selon une analyse publiée par Harvard Health, les espèces plus petites pourraient mériter une place beaucoup plus importante dans notre alimentation. Les chercheurs se sont intéressés aux aliments situés plus bas dans la chaîne alimentaire marine, comme les sardines, les anchois, le hareng et le maquereau. Ces poissons présentent plusieurs caractéristiques qui les distinguent des espèces plus grandes, tant sur le plan nutritionnel que sur le plan environnemental. Pourquoi devriez-vous manger de plus petits poissons? Selon Harvard Health, remplacer une partie de la viande rouge par du poisson constitue déjà un choix intéressant sur le plan nutritionnel. Toutefois, opter pour des espèces situées plus bas dans la chaîne alimentaire pourrait offrir des avantages supplémentaires. Les petits poissons comme les sardines, les anchois, le hareng ou le maquereau sont d'excellentes sources de protéines. Ils contiennent également des nutriments importants, notamment du fer, du zinc, de la vitamine B12 et des oméga-3, des gras reconnus pour leur rôle dans la santé cardiovasculaire. Un autre aspect distingue ces espèces. Comme elles sont souvent consommées entières, incluant leurs petites arêtes, elles fournissent aussi du calcium et de la vitamine D, deux nutriments essentiels au maintien de la santé osseuse. Harvard Health souligne également que les petits poissons sont généralement moins exposés à certains contaminants. Les espèces plus grandes, comme le thon ou l'espadon, se nourrissent de nombreux poissons plus petits tout au long de leur vie, ce qui favorise l'accumulation de substances comme le mercure dans leurs tissus. Les poissons de plus petite taille présentent habituellement des concentrations plus faibles de ces contaminants. L'étude évoque aussi les fruits de mer à coquilles, comme les huîtres, les moules et les palourdes. Bien qu'ils contiennent moins d'oméga-3 que certains poissons gras, ils demeurent riches en protéines, en zinc et en vitamine B12. Ces aliments occupent une place particulière puisqu'ils nécessitent peu de ressources pour être produits et contribuent même à filtrer l'eau dans leur environnement naturel. Les chercheurs rappellent par ailleurs que ces aliments sont au cœur du régime méditerranéen traditionnel, souvent cité parmi les modèles alimentaires les plus favorables à la santé cardiovasculaire. Les sardines et les anchois y occupent une place de choix depuis des générations. Enfin, l'étude souligne que l'on peut descendre encore plus bas dans la chaîne alimentaire marine avec certains végétaux aquatiques, comme les algues. Peu répandues dans l'alimentation nord-américaine, elles fournissent notamment des fibres, de l'iode, ainsi que plusieurs vitamines et minéraux. C'était « Il faudrait manger davantage de petits poissons », un texte de Mégane Tanguay, paru le 4 juillet 2026, dans Coup de pouce.
Le patron est absent. Les employés dansent. Un texte de Jean-François Berthollet, paru le 14 juillet 2026 dans la presse. Durant les vacances estivales, des milliers de gestionnaires quitteront leur bureau, laissant leur équipe sans supervision. Pour le meilleur ou pour le pire, selon les croyances. Nous connaissons tous le proverbe « Quand le chat n'est pas là, les souris dansent ». Au travail, il est souvent invoqué pour justifier une présence constante des gestionnaires. Après tout, si le patron s'absente, les employés risquent de ralentir, de procrastiner ou de prendre leurs aises. Mais qui dit que cette danse ne pourrait pas être une bénédiction pour l'entreprise? Une publicité de FedEx, devenue culte, avait connu un retentissant succès car elle faisait écho à une réalité implacable. Les gens se comportent différemment quand le patron est au bureau. Alors que l'adjointe du président répond à l'appel du dirigeant qui lui annonce qu'il ne sera pas au bureau aujourd'hui, tout le monde bondit de son bureau avec son sac de golf et se prépare à partir, avant d'apprendre qu'il passera quand même en début d'après-midi récupérer un document. Déception générale, tout le monde se rassoit. Cette idée est d'ailleurs défendue par Yvon Chouinard, fondateur de la célèbre marque de vêtements Patagonia. Celui-ci parlait de son MBA, Management by Absence. Par ce clin d'œil, il ne prétend pas que son rôle de dirigeant est inutile, mais plutôt que par un bon management, les équipes devraient très bien pouvoir fonctionner en son absence. Bref, on pourrait évaluer la qualité du management à ce qui se passe lorsqu'il n'est pas là. Un PDG me disait récemment qu'il peut prendre 2 mois de vacances en été et que ce ne serait pas un problème. Certains de ses confrères dirigeants le considéraient comme chanceux. Il répliquait que d'une certaine façon, ça fait des années qu'il prépare ses vacances. Ça passe par le développement de la maturité de l'équipe. Nombre de gestionnaires se déclarent épuisés et débordés. Peut-être aiment-ils se sentir indispensables. Par le fait même, ils deviennent le principal goulot d'étranglement de leur groupe. Si certains gestionnaires redoutent tellement cette fameuse danse, la tentation est grande de vouloir garder un œil sur ce qui se passe en leur absence. Mais que ce soit pendant les vacances ou de façon générale, la surveillance est rarement efficace. L'intuition est séduisante. Plus on surveille, mieux les gens travaillent. La recherche raconte toutefois une autre histoire. Une méta-analyse regroupant près d'une centaine d'études, publiées dans Personal Psychology en 2022, révèle qu'elle ne favorise pas la performance, mais qu'elle augmente le stress. Je me rappelle, en début de carrière, avoir trouvé fascinante la situation paradoxale dans laquelle se trouvait une équipe de superviseurs. L'équipe de nuit était nettement plus productive que celle de jour. Pourtant, elle était sans supervision et affrontait seule les imprévus. On s'était rendu compte que ce n'était pas malgré l'absence de superviseur qu'elle était plus performante, mais grâce à leur absence. Les opérateurs prenaient des décisions, réglaient eux-mêmes les problèmes et perdaient moins de temps à attendre une approbation. Peut-être, au fond, devrait-on même souhaiter que les souris dansent en notre absence. L'absence du gestionnaire peut devenir l'occasion pour les employés d'être plus spontanés et plus créatifs. Pourquoi ne pas profiter de cette période pour encourager les employés à travailler sur des projets qui les interpellent et pour lesquels ils auraient manqué de temps dans l'année? Pour enfin explorer, se développer et apporter de nouvelles idées qu'on n'a jamais eu le temps de peaufiner. Quel beau retour de vacances ça pourrait faire pour le gestionnaire de rencontrer chaque membre de son équipe afin qu'il lui présente l'avancement de son projet. Si vous êtes employé et que votre gestionnaire part bientôt en vacances, pourquoi ne pas lui demander de vous libérer du temps pour avancer un dossier porteur pour votre équipe et votre carrière? Bref, la performance en l'absence du gestionnaire ne sera pas nécessairement de la même nature. Mais ça pourrait être pour le mieux. On pourrait ainsi imaginer 3 tests importants en leadership. Ce qui se passe quand vous entrez dans la pièce, ce qui se passe quand vous en sortez, et ce qui se passe quand vous en sortez pendant 3 semaines. Certains patrons craignent que les souris dansent lorsqu'ils s'absentent. Ils devraient peut-être davantage s'inquiéter lorsqu'elles cessent de danser dès qu'ils reviennent. C'était « Le patron est absent, les employés dansent », un texte de Jean-François Berthollet, paru le 14 juillet 2026 dans la presse.
Dieu, le diable et le libre arbitre. Un texte d'Annick Sénécal, paru le 15 juin 2026, dans Présence Information religieuse. Il aura fallu attendre jusqu'au 13 mai 2026 pour que le rideau tombe une dernière fois sur l'un des univers de fiction les plus singuliers de la décennie. Good Omens conclut son histoire avec un unique épisode de 90 minutes plutôt qu'avec une saison de 6 épisodes. Pour une œuvre s'attardant sur les grandes questions de l'existence, cette concision surprend. Or, cette contrainte, imposée suite aux accusations lancées contre l'un des co-auteurs du roman original, cache néanmoins une ironie, une série sur le destin qui échappe à son propre destin. Attention, le texte contient des divulgateurs. L'ordre divin contre la foi vivante. Adapté du roman de Neil Gaiman et Terry Pratchett, Good Omens, de bons présages au Québec, raconte l'histoire d'un archange, Aziraphal, et d'un démon, Crowley, devenu allié improbable après des millénaires passés sur Terre. Au début de la première saison, tous deux sont censés faciliter l'avènement de l'Antéchrist et déclencher la guerre entre le ciel et l'enfer. Cependant, aucun d'entre eux n'a vraiment envie de voir la planète détruite. Ils décident donc de s'allier pour retarder l'apocalypse, s'opposant ainsi aux volontés de leurs camps respectifs. L'intrigue de la 3e saison reprend immédiatement après la séparation du duo. Aziraphal devient le grand archange suprême, mais il fait face à une bureaucratie divine et à des disparitions inexpliquées. De son côté, Crowley erre dans les rues de Soho au plus bas de sa forme. Voilà comment s'amorce le conflit philosophique central de la série. D'un côté, un ange qui croit en la possibilité de transformer le paradis, et de l'autre, un démon qui affirme que les structures célestes ne se réforment pas, elles s'effondrent ou on les abandonne. Aziraphal souhaite modifier les règles du jeu. La résurrection du Christ ne déclenchera pas un jugement dernier catastrophique, mais apportera la paix et le bonheur à toute la population. Mais cette initiative ne fait pas l'unanimité. Good Omens se révèle provocateur lorsqu'il remet en question la nature divine de la religion, qui est plutôt proposée comme une institution sujette aux mêmes défaillances que n'importe quelle œuvre humaine. Dans cet univers, le paradis n'est pas un lieu de grâce, mais un ministère céleste où les archanges se jalousent. Ce qui fait la joie de l'univers de Good Omens, c'est qu'il parle de nous tous. Il nous représente tous, affirme Liz Carr, qui interprète le personnage de Sarah Cael. Le libre arbitre comme acte de foi. Au cœur de la conclusion se trouve une représentation humble et rebelle de Jésus. Celui-ci, qu'Aziraphal voulait présenter à l'ONU, préfère être au contact des gens. Ce choix indique que la véritable foi émane des interactions humaines et de l'imprévu, non d'en haut. L'histoire conteste ainsi la mécanique glacée du second avènement, tel que prévu à l'origine, en proposant une spiritualité ancrée dans la réalité et animée par la vie. Cette conclusion est assez philosophique. D'une certaine manière, c'est très différent de tout ce qui a précédé, et pourtant, c'est la seule façon dont l'histoire pouvait se terminer, avec quelque chose comme une méditation sur ce que c'est vraiment qu'être humain, soutient l'acteur David Tennant, qui incarne le démon Crowley. La confrontation finale entre Satan et Dieu se transforme en une discussion sur le libre arbitre et la prédestination. Crowley s'interroge sur la logique de la création d'un univers où les personnes sont châtiées pour leurs gestes normaux. Aziraphal cherche à comprendre pourquoi Dieu lui avait confié Crowley avant de le lui retirer. Même s'il emprunte largement au registre religieux, Good Omens évite prudemment de se prononcer sur des siècles de débats théologiques. Et c'est sa plus grande force. La série n'affirmait pas détenir la vérité sur Dieu. Elle admet plutôt que les questions sont plus précieuses que les réponses. C'est une histoire vraiment intelligente et vraiment, vraiment nécessaire en ces temps-ci, affirme l'acteur Dune McKechnie, qui interprète l'archange Michael. Une conclusion imparfaite mais honnête. La conclusion de Good Omens touche le plus dans ces 15 dernières minutes qui offrent un point d'orgue surprenant et émouvant de la série. Ce dénouement rassemble de manière imprévue le destin et la liberté de choix des personnages, laissant croire qu'une puissance mystérieuse les guide l'un vers l'autre. C'est la thèse ultime de la série, ce genre d'amour ne disparaît jamais, il se réinvente. En raison de son rythme précipité, ce dernier épisode est sans contredit imparfait. Toutefois, dans une histoire qui nous fait passer deux saisons à nous interroger si Dieu a un plan, il est peut-être juste que la conclusion soit, elle aussi, un peu chaotique. C'était « Dieu, le diable et le libre arbitre », un texte d'Annick Sénécal, paru le 15 juin 2026 dans Présence, Information religieuse.